7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Quel plaisir de vous retrouver les voisins, les voisines après quelques jours d'absence. Nous sommes en pleine vacances scolaires d'été après des mois sans école. Alors pour rester confiant, pour continuer à apprendre, vous connaissez le mode d'emploi pour vos enfants, ça s'appelle l'école à la radio. Avec ou sans vous, mais en tout cas, si possible avec des grands frères, avec des grandes sœurs pour donner un petit coup de main aux plus jeunes, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est le retour d'un enseignant que vous aimez. Bonjour Adama Keïta.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous retrouver. Très bien, et vous-même ?
Oui, ça va très très bien ici à Boisquier, ça va très bien.
Et oui, vous êtes un enseignant de ma ville natale, comme dit Karim qui vous a envoyé un message. Merci 7 milliards de voisins.
Ok, merci Emmanuel, merci. Bonjour à tous, bonjour à tous les voisins.
Vous êtes formateur d'enseignants à Boisquier, à Dama, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Vous avez passé des années au tableau créé en main.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai passé 17 ans créé en main et 22 ans dans l'encadrement des enseignants.
Adama Keïta, aujourd'hui, nous revenons sur les pièges de la lecture pour les très jeunes enfants avec une leçon sur deux lettres qui posent problème.
Et ces deux lettres sont la lettre B et la lettre D.
Voilà, B comme bateau, comme bébé, D comme...
Le doigt.
Le doigt, découverte, donc deux lettres bien différentes. Hein. Mais c'est vrai qu'on a tendance à les confondre quand on les écrit en écriture script. Voilà. Des activités sur la confusion des lettres, on peut commencer ces activités dès l'âge du préscolaire d'ailleurs, hein.
Tout à fait, tout à fait. Et même certains élèves continuent même de confondre ces deux lettres, même en classe de CE et CM. Parce que vous savez que nous avons des enfants qui ont des handicaps au niveau des yeux et qui ont du mal à cerner le contour des lettres. Et donc, les activités que je vais proposer sont comme une solution pour ces enfants-là qui sont handicapés.
Du matériel à prévoir pour la leçon sur le B et le D?
Oui, du matériel. On va d'abord utiliser les doigts de la main, ça c'est naturel.
Oui, ça c'est facile.
Voilà, et puis quelques citrons.
Des citrons, oui.
Voilà, des bichettes d'allumettes.
Oui, des allumettes.
Une feuille de papier, une ardoise et un crayon à papier.
C'est bien noté, les doigts de la main, citrons, les allumettes, feuilles de papier ou ardoise et craie. À la récréation ensuite, une histoire à réécouter choisie parmi les succès de l'école à la radio. Il faut sauver Eno, racontée par Héloïse Oria. Et enfin, la chronique de Sylvia Serbin. Chaque semaine, une héroïne mal connue de l'histoire du continent africain, la reine des Teyala du Wallo, résistante sénégalaise à la colonisation. Et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'à partir de demain, nous vous proposerons 8 épisodes d'une série inédite, Petits-enfants des indépendances. Des lycéens enquêtent et nous racontent l'indépendance de leur pays 60 ans après l'été 1960. Vos réactions aussi et vos questions, toujours sur WhatsApp, au 33 1 84 22 71 71. Et n'oubliez pas d'aller toujours faire un petit tour sur notre page Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses. Émission réalisée avec l'équipe Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Je m'appelle Ismaël Sami Babamoussa, j'ai 11 ans, je passe en 5e. Je viens d'écouter pour la première fois votre émission et j'ai adoré. La prochaine fois, je voudrais que vous m'aidiez à reconnaître les adverbes car je n'arrive pas à les reconnaître. Au revoir, merci.
Bonjour 7 milliards de voisins, c'est Simon Kassongo à partir de Lubumbashi. Ce que j'ai voulu vous dire est que si on arrivait à déconfiner, privez-nous de tout, sauf de l'école à la radio. Et ma proposition est que lorsque le vendredi vous parlez de l'éducation, mettez seulement l'école à la radio là-bas, ça nous fera énormément plaisir. Ciao, ciao.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Eh bien, merci pour tous vos messages et suggestions. Évidemment, on en tient compte. Hein, c'est bien noté pour la suite de l'école à la radio. On prévoit aussi des leçons, de nouvelles leçons de grammaire, notamment sur les adverbes. Mais aujourd'hui, vraiment, on s'adresse aux tout petits, à ceux qui commencent à découvrir les lettres. Et c'est un moment crucial, Adama Keïta, parce que si on commence à confondre les lettres, eh bien ensuite, c'est mal parti pour apprendre à lire. Alors, on démarre sur le B et le D. B comme bébé, D comme les doigts de la main, deux lettres à ne pas confondre.
C'est bien cela. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui. Et les enfants, nous allons vous proposer une série d'activités portant sur la distinction des lettres B et D. Alors, l'objectif, cela vous permettra de trouver une solution aux difficultés que vous éprouvez à distinguer ou à reconnaître ces lettres qui ont des graphies presque semblables, mais qui ne s'écrivent pas et ne se lisent pas de la même manière. Alors, pour cela, un premier exercice avec les doigts de la main. On va utiliser la main gauche. Je vais vous demander, les enfants, de former un point avec les quatre premiers doigts de la main. Formez un point avec les quatre premiers doigts de la main.
Alors, je suis en train de le faire. Hein, donc, je ferme ma main avec quatre doigts.
Et je lève mon pouce tout droit dans le ciel.
Ouais, d'accord. Ça, c'est un peu pour dire, ça va super bien, Adama.
Voilà. Je lève mon pouce tout droit au ciel et en face de moi, j'ai une lettre.
Ah bah oui, vous avez raison, il y a la avec le point, ça fait comme une espèce de boule, et le pouce, c'est comme la tige de la lettre.
Alors là, j'ai en face de moi la lettre B.
Ouais, en effet, c'est la lettre B. Si je regarde mon point avec les doigts fermés en face de moi, on voit bien la tige avec le pouce, et ensuite la grosse boule pour la lettre B.
Et ça, à partir de la main gauche. On va reprendre le même exercice, mais cette fois, avec la main droite. Je forme un point avec les quatre premiers doigts de la main. On y va ?
Oui.
C'est fait. Ensuite, je lève tout droit le pouce vers le ciel.
Alors, je suis en train de le faire. J'ai ma main en face de moi, je suis en train de me tordre le bras pour essayer d'imaginer la lettre que vous voulez nous faire former avec le point. Ne confondez pas la gauche et la droite, les enfants, les grands frères, donnez un petit coup de main si c'est possible. On a bien la main droite, les doigts refermés, seul le pouce élevé. Et là, qu'est-ce qu'on a avec cette boule ?
Oui, cette boule nous donne la lettre D.
D.
En écriture, D en script.
D comme les doigts, exactement, écrit en script. Eh oui, c'est l'arrondi et puis le pouce pour la tige de la lettre D. Je ne sais pas si on dit tige, mais ouais, enfin, vous savez, moi je ne suis pas une professionnelle de l'enseignement comme vous. Hein.
Voilà. Et donc, on comprend qu'on peut former la lettre B à partir de la main gauche et la lettre D à partir de la main droite. Mais maintenant, nous allons essayer de construire ces deux lettres avec du matériel. Alors les enfants, vous allez donc prendre votre matériel composé de citrons et de bûchettes d'allumettes. Mmh. On va construire les deux lettres. Alors, la première lettre que nous allons construire, c'est la lettre B. Et sur la lettre B, la bûchette d'allumettes va remplacer le pouce et la boule sera remplacée par le citron. Alors, on va donc piquer le citron avec la bûchette d'allumette sur le côté gauche, sur le flanc gauche, en maintenant la partie inflammable tout droit vers le ciel.
Ouais.
Donc, je vous donne du temps pour faire cet exercice.
Oui, alors donc, les enfants sont en train de piquer l'allumette dans le citron. Attention, on a bien dit, Adama a demandé une lettre B. Donc, il faut bien, B comme bébé, hein. Donc, il faut bien piquer l'allumette du bon côté,
sur le flanc gauche
du citron. Et on s'aperçoit que ça revient un petit peu au pouce qui était levé, l'allumette. Hein.
Tout à fait, le pouce qui est l'allumette. Et la boule, le point qui est remplacé par le citron.
Oui.
Alors, donc, on forme la lettre B. On dira donc que la lettre B, c'est un citron piqué sur le côté gauche, un citron piqué sur le côté gauche par une bûchette d'allumettes debout.
Ah oui, j'y avais pas pensé.
La bûchette d'allumettes debout. Parce qu'il faut faire la précision, parce qu'on peut piquer le citron par sur le côté, n'importe quel côté, mais il faut préciser que c'est un citron piqué avec une bûchette d'allumettes debout sur le flanc gauche.
Et là, on a bien la lettre B presque parfaite.
Tout à fait. Alors, on va reprendre les enfants le même exercice avec la lettre D. Toujours avec votre citron et votre bûchette d'allumettes. Et cette fois, pour écrire la lettre D en script, nous allons piquer le citron, cette fois à droite, sur le flanc droit ou le côté droit, en maintenant la partie inflammable tout droit dans le ciel. Alors, je vous laisse du temps pour faire l'exercice.
Alors, soit on peut aussi retourner le citron, mais sinon, donc, bien repiquer l'allumette du bon côté, puisqu'il faut cette fois-ci, pour la lettre D comme doigt, comme les doigts de la main, il faut bien avoir la boule du côté gauche de l'allumette. Donc, on pique l'allumette sur le flanc droit du citron. Et là aussi, on s'aperçoit qu'on a vraiment la forme de la lettre D, simplement avec un citron. Et c'est la même chose que ce qu'on a fait avec le poing fermé et le pouce levé.
Tout à fait. Et donc, on comprend alors que la lettre D et la lettre B, écrites en script, sont différentes. D'un côté, nous piquons le citron sur le côté gauche, et de l'autre, nous piquons le citron sur le côté droit. Alors, maintenant que nous avons fini de fabriquer ces objets, nous allons apprendre maintenant à écrire les deux lettres. Toujours la forme script. Alors, pour cela, nous allons commencer par la lettre B. Alors, le citron va être replanté par un rond que nous allons faire sur une feuille de papier ou sur notre ardoise, et puis la bûchette d'allumettes par ce qu'on appelle un pilon debout, un trait debout.
Donc là, alors, on est en train de dessiner la lettre B en recopiant la forme du citron avec l'allumette qui est piqué donc sur le côté gauche du citron.
Exactement. Alors, donc les enfants, vous allez prendre donc votre ardoise et essayer de représenter votre ardoise ou votre feuille de papier et essayer de me représenter la lettre B selon la consigne qui vient d'être donnée.
Donc, le bâton, l'allumette et ensuite la boule du citron. Et on a la lettre B en écriture script, qui est vraiment l'écriture qu'on utilise tous les jours.
Voilà, l'écriture qui est très souvent utilisée, même dans les manuels scolaires.
Oui.
Voilà. Et donc, on a ainsi, pour dessiner la lettre B, on dessine donc un rond, on trace un trait debout à gauche de ce rond. Voilà, nous avons la lettre B. Alors, nous allons donc reprendre le même exercice pour la lettre D cette fois-ci. Toujours sur notre feuille de papier ou sur notre ardoise. Alors, reprenez l'exercice avec la lettre D, toujours avec votre rond et le trait debout qui regarde tout droit vers le ciel. Je vous laisse du temps pour construire la lettre D en script.
Donc, on voit bien la différence, c'est que la boule va se retrouver de l'autre côté du bâton d'allumette. Et on fait la même chose sur l'ardoise ou sur le papier. Il faut bien laisser le temps aux enfants de dessiner la lettre. On est bien sur la lettre D.
Alors, donc la lettre D, on obtient donc la lettre D en dessinant un rond, puis un trait debout à droite du rond. Donc je reprends pour dessiner la lettre T en script, on trace en rond, puis un trait debout à droite de ce rond. Voici la lettre T. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, les enfants? Dire que les lettres B et D sont composées des mêmes éléments, vous l'avez constaté. On est parti du doigt, des doigts de la main, pour donner au citron, et ensuite on a dessiné la lettre sur les ardoises. Bien que le squelette de ces deux lettres soit formé à partir des mêmes éléments, ces deux lettres sont différentes, tant par la lecture que par l'écriture.
En effet, maintenant, il faut mémoriser quelle lettre a la boule devant elle, devant le bâton, et quelle lettre a la boule à l'arrière du bâton.
Tout à fait. Alors, donc, pour conclure, Emmanuel, D s'écrit avec un rond à droite duquel on trace un trait debout. Et B est un rond à gauche duquel on trace un trait debout. Alors, les enfants, est-ce que nous pouvons trouver quelques mots à partir de ces deux lettres?
Voilà.
Alors, maintenant que nous savons que les lettres B et D ne s'écrivent pas de la même manière, nous allons essayer de former quelques syllabes à partir de ces lettres pour marquer leur différence.
Mmh.
Voilà. Alors, donc je commence par la lettre B. Alors, B associé à A, quelle est la syllabe qu'on obtient? B.
B.
A.
Le B, hein. Vous vous dites B, B, mais finalement les enfants apprennent aussi que c'est le son B.
Oui.
Et ensuite la lettre A.
A.
Ça va bien nous donner BA.
BA. Alors, donc B, A, nous donne BA. Mais en même temps que cela nous donne BA, est-ce que nous pouvons trouver un mot dont la première syllabe s'écrit BA?
Alors,
chercher les enfants sur les ardoises.
On va vous laisser le temps de chercher des mots qui commenceraient avec la lettre B que vous avez appris à tracer. La lettre A, peut-être que vous savez déjà la tracer.
Oui.
Ça nous donne BA. Qu'est-ce qu'on connaît comme mots, des mots de tous les jours? Adama Keïta, vous êtes en train de chercher là autour de vous?
Oui, les mots, il y en a beaucoup. Il y a ballon. Les enfants aiment bien jouer au ballon.
Oui.
Donc, un ballon. Ensuite, un bâtiment.
Et alors, c'est drôle parce que vous parlez du ballon, Adama, mais
oui,
c'est un peu comme la forme du citron. Si on collait au ballon un bâton, qui commence aussi par B et A, eh bien,
voilà,
ça pourrait nous donner la forme du B si on mettait
tout
le ballon
fait
dans le bon sens. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
On pourrait imaginer d'attacher un bâton à un ballon. Le bâton, comme la tige toute droite du B, et puis la boule du ballon, et ça nous donne un B.
Tout à fait. Alors, à partir de ces deux mots, on va prendre ballon. Alors, les enfants, vous allez construire une phrase avec le mot ballon. Une phrase simple avec le mot ballon. Sur les ardoises, ou sur votre fil de papier. On vous laisse du temps.
Alors, pour ceux qui ont du mal encore à écrire, bien évidemment, vous pouvez vous faire aider, et vous pouvez surtout la dire à l'oral, la phrase. Et puis les grands frères ou les grandes sœurs ou les parents peuvent écrire la phrase sur l'ardoise. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon?
Alors, moi je vais vous donner un exemple de phrase. Prenez-vous au ballon. Prenez-vous au ballon. J'espère que les enfants en ont trouvé plusieurs.
Oui, et on peut même dire tous les jours, nous jouons au ballon pendant la récréation.
Tout à fait. Tous les jours, nous jouons au ballon dans la cour de récréation. Alors, ça c'était pour l'exemple avec B, la lettre B. Nous allons maintenant trouver, faire le même exercice avec la lettre D.
Alors, souvenez-vous, les enfants, la lettre D, c'est un peu comme une lettre B à l'envers, c'est-à-dire que la tige, le bâton se met de l'autre côté de la boule.
C'est ça. Alors, donc avec B, on va associer D avec O. B, O. Qu'est-ce que cela nous donne? Alors, de O nous donne Do.
Do.
Voilà, le Do, comme votre Do. Alors, trouvez d'autres mots, les enfants.
Que pourrait-on trouver comme mot qui commence avec le son et la syllabe, c'est-à-dire la lettre de, avec O, ça fait Do. On a dit le Do.
On peut aussi associer de à I. Voilà, de à I, on donne di. Alors, avec di, on peut trouver diriger, par exemple.
On peut dire aussi dire, le verbe dire.
Le verbe dire, diriger une école, diriger une famille, le père dirige la famille. Vous pouvez d'autres exemples dans ce sens, les enfants. D'autres exemples des phrases à partir de dit. Le père dirige la famille. Le directeur de notre école...
La mère aussi dirige la famille, hein, Dama. Un peu,
voilà. Oui,
quand même.
Oui, la mère et le père dirigent la famille. Mais je prends un exemple. La mère dirige la famille, c'est aussi une autre phrase. Exactement. Alors, on peut associer encore D à une autre voyelle orale. De A.
Da.
De A, da. Alors, trouvez un mot avec da.
Alors, attention à ne pas confondre avec B, A, ba. On a vu que, d'ailleurs, les sons... pourrait se ressembler, mais ça ne s'écrit pas du tout de la même façon, puisqu'on a bien le D et non pas le B.
Voilà.
Donc, de A, ça fait da. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot?
Le mot qu'on pourrait trouver, par exemple, on dirait une date.
Une date. Les dates, ouais, qui sont bien, voilà, sucrées et délicieuses, voilà, que les enfants aiment, les dates.
Et ensuite, la date, le jour.
La date, le jour, exact.
Voilà, la date, le jour. Et puis, un autre mot. Une daba.
Une daba. Ça, c'est, voilà, pour cultiver. Hein. C'est assez lourd, voilà, à soulever. Allez. Pour les enfants, d'ailleurs. Pour casser la terre.
Tout à fait, tout à fait.
Pour aller au champ.
Donc, alors, les enfants, vous comprenez que la lettre D ensuite et la lettre B ensuite sont deux lettres différentes. Tant par l'écriture que par la lecture. Parce qu'elles présentent certainement... les mêmes éléments, ce sont les mêmes éléments qui permettent de construire ces deux lettres, mais à la lecture, elles sont différentes. Donc, il ne faut pas faire de confusion entre ces deux lettres. Alors, on peut continuer l'exercice comme ça avec les parents. Voilà. En trouvant toujours des...
Peut-être,
voilà,
qu'on pourrait proposer une petite devinette ou une activité avec des mots à reconnaître.
Oui, tout à fait. Par exemple, je vous dis, je suis un fruit très sucré. Ma première syllabe commence par la lettre D.
Je suis un fruit très sucré.
La première syllabe commence par la syllabe DA. Qui suis-je?
J'ai l'impression que j'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous avez une autre idée, Adama.
Oui, on a parlé d'une tarte. La tarte est un fruit très sucré. Juste pour dire aux enfants, et on venait juste de parler de la date. La date est un fruit très sucré. Voilà. Je suis un oiseau.
Je suis un oiseau. Et je commence par quelle lettre alors?
Alors, je commence par la lettre D, toujours.
Toujours la lettre D, donc.
Voilà. Qui suis-je, les enfants?
Adama Keïta, je pense que les enfants ont bien compris la différence entre ces deux lettres qui suscitent beaucoup de confusion quand on commence à apprendre à lire, la lettre B, la lettre D. Ils les ont fabriquées avec leurs poings, avec un citron, avec des bûchettes d'allumettes, ils les ont écrites sur les ardoises. Merci beaucoup à vous, Adama.
Merci à vous, Emmanuel.
Et on va vous retrouver dans quelques jours pour une leçon de vocabulaire sur la famille. Là aussi, il y a souvent des confusions entre les cousins, les oncles, les tantes, les tatas, les tantis, les tontons, etc. Et on s'y retrouvera un petit peu mieux dans la famille, au sens large du terme, hein, mais pas tout le village non plus. Merci à vous, Adama. On vous souhaite une très très bonne journée à Bouaké.
Merci. Merci, à bientôt.
L'école à la radio, maintenant, vous attendez tous. Une histoire racontée par Héloïse Aurélia. Elle se prépare, elle va arriver, et ça sera juste après. Kendrick Lamar et Anderson .Paak. I've been feeling kinda cooped up, I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, we know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got a draw, no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya, niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. Give it to a chiller in the base, baby, man, I don't want some baby names. Niggas crying for less out here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my room.
Probably think a nigga trolling,
lying.
But showing out for the cameras.
Right.
Fuck, I'm doing fish bowling.
So.
100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10 cause bomb head is non-disclosure.
I need 10
so I can live with a peace of mind without niggas taking a peace of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches.
Tout l'été, vous pouvez réécouter les meilleures histoires racontées par Héloïse Aurélia. Évidemment, c'est l'école à la radio. Vous êtes sur RFI, 7 milliards de voisins. Et tout de suite, il faut sauver Eno.
Je vais peut-être une fois. Je vais inventer une histoire.
Il était une fois.
Il faut sauver Eno. Un roman écrit par Jacqueline David. Jim adore aller dans la brousse regarder les animaux. Un jour, il rapporte chez lui un jeune chimpanzé blessé. Son père lui explique. Des braconniers ont tiré sur ton animal pour vendre sa viande. Mais le singe a réussi à leur échapper. Nous, on va le soigner. Mets-le dans la remise. Tous les jours, Jim apporte à manger au chimpanzé.
Il l'a appelé Eno. Au début, Eno a peur de lui. Il se cache dans le fond de la remise. Et puis, peu à peu, il devient moins craintif. La main tendue, il vient réclamer son repas. Jim l'accueille en claironnant « Monsieur est servi !» Mais le singe reste à distance. Plusieurs semaines passent. Maintenant, le chimpanzé peut sortir dans la cour, attaché à une corde. Assis sur une chaise, Jim aime lui parler. Il lui raconte l'école, ses copains, Ima, Désiré et Ayao. Surtout Ima. Jim l'aime beaucoup. Eno s'approche et l'écoute avec attention. Justement, les trois amis leur rendent visite ce soir. Jim est fier de présenter son protégé. Très vite, le garçon déchante. Ses copains n'arrêtent pas d'embêter Eno. Ayao a saisi un bâton qu'il pousse dans les côtes de l'animal.
« Allez, saute ! Tu es un acrobate, non ? »
crie-t-il. Le poil hérissé, Eno bondit au rythme du bâton. Brusquement, Jim intervient. «
Arrêtez ! Vous lui faites peur !»
Désiré proteste.
« Mais non, c'est trop rigolo, allez ! Ayao, fais sauter Eno !»
Jim éclate. « Ce n'est pas un jouet ! Laissez-le tranquille, rentrez chez vous !» Ima fait signe à ses copains. « Venez, on le laisse avec son animal pouilleux !» Sans un regard, tous trois quittent la cour. Soulagé, Eno vient se coller contre les jambes de Jim. Le lendemain, le garçon se retrouve seul à l'école. Désiré et Ayao font semblant de ne pas le voir. Quant à Ima, elle lui tourne le dos en faisant le soir, Jim apporte sa gamelle à Eno, puis il s'assoit sur la chaise, muet. Déconcerté par le silence, le chimpanzé bondit autour de lui en poussant des cris. Comme Jim ne réagit pas, le singe saute sur ses genoux. Ses yeux marrons l'interrogent. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jim murmure. « Les copains ne m'aiment plus à cause de toi. » Eno hoche la tête et Jim éclate de rire. Alors le garçon se met à raconter. Et sa tristesse s'envole avec ses paroles. Le vendredi après l'école, Ima interpelle Jim. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Jim s'approche, étonné. « J'ai entendu deux jeunes qui parlaient de ton singe. D'après eux, il vaut cher. Ils veulent le voler. Tu es sûre, Ima ?»«
Certaine. Même qu'ils disaient « cette nuit ». Il faut faire vite. »
Jim articule. « Mon père pense qu'Eno doit retourner dans la forêt. Je vais l'emmener cette nuit. » Puis, les larmes aux yeux, il poursuit. « Moi, je voudrais le garder. » Ému par son chagrin, Ima propose. « Je peux aller avec toi si tu veux. »«
Je croyais que tu m'en voulais, » bredouille Jim.
Ima hausse les épaules.
« Je ne peux pas laisser voler ton singe. »«
Allez, à ce soir, » dit-elle en s'en allant.
À la nuit tombée, en catimini, Ima et Jim conduisent Eno dans la forêt. Jim dénoue la corde du chimpanzé qui, tout heureux de retrouver sa liberté, s'enfonce sous les arbres. Soudain, deux ombres s'abattent sur les enfants. Ce sont les jeunes. Ils ont dû les voir au village et ils les ont suivis. L'un bloque Ima, l'autre saisit le poignet de Jim et le tord.
« Où est ton singe ? »
crie-t-il.
Malgré la douleur, Jim reste muet. « Tu vas l'appeler ou je te casse le bras !»
Des clameurs furieuses l'interrompent. Le poil gonflé, Eno surgit du feuillage. D'un geste fulgurant, il balance un morceau de bois sur le jeune qui s'écroule. Le singe s'apprête à fondre sur le second, toute canine dehors. Mais celui-ci s'enfuit. L'autre se relève et s'éloigne en titubant. En signe de victoire, le chimpanzé tape des pieds sur le sol. Ima vient le féliciter.
courage !»
Le singe saute dans ses bras et manque de la faire tomber.
Hé, pas de familiarité,
rigole-t-elle. Jim éclate de rire. Mais aussitôt, son visage devient grave.
Il faut que tu partes retrouver ta famille, Eno.
Ému, l'enfant se penche sur son compagnon. Celui-ci se redresse et met ses mains sur les épaules de Jim.
Au revoir, Eno, mon copain.
Une dernière fois, le singe tourne la tête vers son ami, puis il s'enfonce par petits bonds dans la forêt. Le cœur serré, le garçon le suit des yeux. Gentiment, Ima secoue Jim.
« Allez, on rentre! Je ne veux pas que nos parents s'aperçoivent qu'on a disparu. »
Et elle ajoute « Ne sois pas triste. Ton père connaît la forêt. Je suis sûre qu'il t'aidera à revoir Eno un jour. » Jim sourit. « Moi aussi, j'en suis sûre. Tu viendras avec nous ?»«
Bien sûr. Eno, c'est mon copain aussi, non ?»
Puis sans transition, elle part en courant.
« Le premier arrivé au village a gagné !»
Le garçon s'élance à sa suite.
« Ima, t'es qu'une tricheuse, attends-moi !»
Jim n'éprouve plus de chagrin. Au contraire, « Ima et moi, on a réussi, pense-t-il. Ensemble, on a sauvé Eno. »
En ondes, Romain Dubrac, avec la voix d'Héloïse Auréa. L'histoire Il faut sauver Eno est écrite par Jacqueline David pour Planète J'aime lire, édité par Bayard Afrique. Et je vous rappelle que tous les contes de l'école à la radio, vous pouvez les réécouter en série 55 contes à écouter en podcast sur les plateformes de téléchargement, vos plateformes préférées de podcast. Et tout est noté également sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
L'école à la radio. Sylvia Serbin, bonjour à vous. Vous êtes la gardienne de notre mémoire féminine pour l'école à la radio. C'est vrai que peu d'historiens finalement s'intéressent aux héroïnes du continent africain. Pourtant, elles ont bien existé. Alors aujourd'hui, on va... Bien sûr, il ne s'agit pas d'une inconnue, du moins au Sénégal, mais tout de même une héroïne qui n'a pas suffisamment de place peut-être dans l'histoire, la grande histoire. Il s'agit de la reine Ndateyala du Wallo, résistante sénégalaise à la colonisation au XIXe siècle. Je dis la reine Ndate, on dit aussi la reine Ndété, il y a eu plusieurs orthographes. Hein.
Oui, dans les archives de son époque, on écrivait Ndateyala et donc maintenant on reprend... son nom traditionnel, c'est Ndateyala.
Alors, qui était cette femme ?
Alors, cette femme, elle a été la première résistante à la colonisation française du Sénégal dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et elle dirigeait le petit royaume multiséculaire du Wallo. C'est un royaume qui existait depuis le 13e siècle, situé dans le nord-ouest du pays et dont la position en bordure du fleuve Sénégal avec un littoral sur l'océan Atlantique lui attirait bien des convoitises. Alors, le Wallo était également frontalier de Saint-Louis, où je suis moi-même. Née d'ailleurs, première ville construite par les Français en Afrique au XVIIe siècle et dont ils firent un entrepôt d'esclaves, un comptoir du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Antilles.
Alors pour qu'on comprenne bien quelle a été l'action et plutôt on va dire les révoltes hein, de cette reine, expliquez-nous un peu quel était le contexte à l'époque.
Oui, c'était une situation vraiment très complexe parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de pression sur ce petit royaume, car les Français, donc, qui étaient déjà à Saint-Louis, ne vont pas se contenter de cette lucrative enclave et l'intérieur du pays leur paraissait tout aussi prometteur. Aussi, les négociants vont faire pression sur Paris pour qu'ils annexent rapidement ces royaumes locaux qui, pour être traversés, réclamaient un impôt en nature prélevé sur les fusils, l'alcool, la peau, et les munitions d'armes à feu et les colifichets qui étaient importés pour les marchés africains.
Donc des taxes qui étaient prélevées par les populations sur place.
Oui, par les chefs des territoires traversés. Ils demandaient en général un dixième des produits qui étaient vendus dans leur sur le royaume. Alors les Blancs vont estimer que ces redevances freinent l'expansion de leur commerce, tout comme le fait que les piroguiers du Wallon, parce que c'est une zone assez marécageuse et qui donne sur le fleuve, donc ces piroguiers du Wallon avaient l'exclusivité du transport fluvial, alors que les Français disposaient de bateaux à vapeur et exigeaient un libre passage sur le fleuve pour le transport de leurs marchandises.
Oui, on comprend déjà pourquoi il y a du conflit en vue. Il y a une autre menace aussi qui est tout aussi inquiétante, qui vient de la rive droite du fleuve, c'est la menace des Maures en Mauritanie.
Voilà, alors les Maures Trarza, donc qui habitent de l'autre côté du fleuve, ce sont des guerriers esclavagistes originaires de la Mauritanie, donc voisine, et qui semaient la terreur depuis très longtemps dans ce royaume où ils venaient rasier des hommes, des femmes et des enfants noirs pour la traite transsaharienne. Alors parfois ils commerçaient pacifiquement avec les gens du Wallon, mais on ne savait jamais à l'avance si les cavaliers du désert arriveraient en agresseurs ou bien pour acquérir des produits conventionnels comme l'or, l'ivoire, l'indigo, les et surtout la gomme arabique qui était très recherchée en Europe pour la fabrication de colles, de confiseries, de produits médicinaux ou de tissus.
On voit bien tout de même que derrière toute cette histoire et le rôle que va jouer la reine d'Ateyala du Wallon, il y a vraiment de très forts enjeux commerciaux, des enjeux économiques. Alors, quel va être exactement le rôle de la reine d'Ateyala dans
cette concurrence, entre Blancs et Mauritaniens pour le contrôle du Wallon, elle n'en voulait absolument pas.
Oui.
Alors, elle a succédé à sa sœur, parce que c'était aussi une reine qui l'avait précédée, la reine Ndiombo. En 1846, donc, Dateyala arrive à la tête de ce territoire, qui était un grenier à céréales de la région du fleuve, avec ses champs de mil et de riz, et dont les Européens de Saint-Louis dépendaient pour leur subsistance en produits vivriers, d'élevage, de pêche, en sel et en produits maraîchers qui étaient écoulés par les femmes. Alors pendant près de 10 ans, elle va user de diplomatie depuis sa capitale Dunder pour essayer d'assurer la paix à ce peuple de cultivateurs et de commerçants. Mais les incidents vont se multiplier lorsque les Français commencent à s'emparer de terrains appartenant au Wallon et à refuser de payer les taxes de transport fluvial ou pour commercer avec les comptoirs de traite situés à l'intérieur des frontières du Wallon. Alors privé d'un impôt indispensable, le pays va s'engager dans la résistance à l'occupation européenne et dans une lettre très ferme au gouverneur de Saint-Louis, Dateyala exige l'évacuation des parcelles qui relèvent de sa souveraineté autour de la ville coloniale et interdit tout commerce européen sur les escales qui dépendent de son territoire. Alors évidemment, ça va provoquer la fureur des traitants européens.
Oui, ça a créé la fureur mais aussi la surprise venant d'une femme, venant d'une reine ou pas ?
Oui, parce que bon, c'était une reine au caractère autoritaire. Bon, elle c'était une Linger, c'est-à-dire qu'elle était issue de famille royale et généralement préparée au pouvoir. Mmh. Et dans cette société, les femmes pouvaient être conseillères de roi ou elles pouvaient occuper le pouvoir. Donc c'est vrai que pour les Français, c'était étonnant d'avoir comme interlocutrice une femme, alors que jusqu'à présent, ils avaient affaire à des chefs qu'ils essayaient d'assujettir ou de séduire selon les occasions.
Alors
mais elle ne voulait pas se laisser faire.
Elle écrit cette lettre dans laquelle elle exige l'évacuation des parcelles qui relèvent de sa souveraineté autour de la ville coloniale. Et ensuite, que va-t-il se passer ?
Alors, après cette lettre, Saint-Louis vient d'avoir un nouveau gouverneur, le chef de bataillon de génie, Louis Feder, qui est très célèbre, un polytechnicien, partisan de l'abolition de l'esclavage, qui avait été nommé en novembre 1854 gouverneur du Sénégal, qu'il connaissait déjà. Et donc, il parlait même quelques langues locales, comme le Wolof et l'Arabe. Et puis, petite histoire dans la grande, il vivra même en concubinage avec une jeune fille noire de 15 ans, dont il aura un fils, également prénommé Louis, et dont il s'occupera. Il fera ses études en France, il ira dans une école d'officier, et devenu sous-lieutenant d'infanterie de marine, ce jeune Feder va mourir très jeune, à l'âge de 24 ans, à son retour à Saint-Louis. Alors, mais pour l'heure, la préoccupation du gouverneur Feder, c'était de briser ce royaume du Wallon qui osait tenir tête aux Européens et qu'il accusait en outre de complaisance envers les Maures, ce qui n'était pas tout à fait faux. Alors, un matin de février 1855, il quitte Saint-Louis à l'aube avec une colonne de 400 soldats, parmi lesquels des tirailleurs sénégalais. C'est un corps militaire qu'il venait de créer en enrôlant des esclaves affranchis après l'abolition de 1848. Alors, dans les villages proches de Saint-Louis, les tam-tams de guerre commencent à se battre précipitamment pour prévenir les Wallons de l'expédition qui se prépare.
Oui. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils vont se préparer. Ils savent que il va y avoir une violente bataille.
Alors, 10 jours plus tard, le 25 février, une violente bataille s'engage contre l'armée du Wallon, commandée par le mari de la reine. Et le 18 mars, les guerriers sont mis en déroute par les canonnières françaises après une vaillante résistance. Alors, pratiquant la politique de la terre brûlée, l'armée coloniale va dévaster tout sur son passage. Ils incendient 25 villages, puis les récoltent, s'emparent des troupeaux de moutons, de chevaux, des vaincus, et emportent, ce qui est amusant, 2000 vaches pour les Blancs de Saint-Louis qui avaient peur de manquer de lait et de beurre en raison de ce conflit. Donc vous voyez que tout est pris en compte.
Et la reine Ndateyala, que devient-elle?
Ndateyala, face à ce désastre, elle trouve refuge avec les siens dans le royaume du Cayeur voisin. Et rongée par le chagrin, elle tente de réanimer la résistance avec ses dernières troupes et avec l'appui de quelques alliés maures. Elle pratique une tactique de guérilla contre les installations françaises, mais c'est trop tard. Hein. Et c'est dans ce lieu d'exil qu'elle meurt en décembre 1856, selon les archives militaires françaises, ou 1860, selon les traditions orales.
Elle a quel âge à peu près quand elle meurt?
Alors elle a une cinquantaine d'années quand elle meurt, quand même. Et ce qu'il reste, je ne sais pas si on a le temps d'en parler.
Oui, tout à fait.
Alors son jeune fils, elle avait un garçon de 7 ans, Sidia, qui sera récupéré par Féderbe, qu'il enverra à l'école à Saint-Louis, et ensuite il ira au lycée impérial en Algérie, à Alger. Mais devenu adulte, ce jeune homme va reprendre le flambeau de la résistance contre la colonisation du Wallon. Arrêté en 1876, il sera déporté l'année suivante au Gabon, où il va se suicider en 1878.
Qu'est-ce qu'il va rester finalement ensuite de la mémoire du règne de Ndateyala et de ses révoltes, hein?
Alors, la mémoire, aujourd'hui, elle est très importante. Du temps où j'étais jeune, où j'avais entendu parler de cette reine, il y a peu de gens qui s'y intéressaient. Mais maintenant, de plus en plus, dans les nouvelles générations, à l'école, au Sénégal, on apprend ce personnage qui est mis en valeur comme une grande résistante africaine.
Mais qui, finalement, a du mal à s'imposer en dehors des frontières du Sénégal.
Oui, malheureusement, on a de plus en plus des histoires nationalistes, entre guillemets, alors qu'il y a une époque où c'était l'histoire panafricaine qui intéressait le système académique. Maintenant, chaque pays essaie de parler que de son histoire, malheureusement.
En tout cas, merci à vous, reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. On peut retrouver de très nombreux personnages féminins mal connus sur le continent africain et ailleurs, aux éditions Médune et Terre. C'est votre livre, Sylvia Serbin. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel, à bientôt.
À très bientôt. Et merci à tous les contributeurs de cette émission. Les voisins et les voisines, on attend vos réactions, vos questions. Demain, suite de l'école à la radio, il y aura bien sûr une autre histoire racontée aux enfants pour rêver, pour apprendre de nouveaux mots. Et la série de Charlie Dupio, Petits-enfants des indépendances, des lycéens enquêtent sur les indépendances dans leur pays, 60 ans après l'été 1960 que bien sûr ils n'ont pas connu. Session là.